Bonjour.
Les auditeurs de RTN vous connaissent bien, notamment avec les reportages diffusés le premier lundi de chaque mois, des reportages qui nous emmènent à la découverte d'étrangers installés en Suisse. Vous êtes donc journaliste, mais journaliste indépendante, et depuis, on va dire, pas mal d'années, vous promenez votre micro en Suisse et ailleurs. Vous venez d'ouvrir voixdumonde.ch, un site qui regroupe les reportages, les articles dont vous êtes l'auteur, un site qui s'enrichit un peu plus chaque jour. Alors, avant d'aller sur ce site, d'écouter un ou deux extraits, journaliste indépendante, c'est un choix que vous avez fait pour parler que des sujets qui vous intéressent?
Oui, mais pas seulement, parce qu'en fait, même les sujets au départ qui ne m'intéressaient pas en étant journaliste salarié, dès le moment où on rencontre des gens qui sont passionnés, qui sont dedans, on est emporté. En tout cas, moi, j'étais emportée et je trouvais finalement tous les sujets assez intéressants. L'envie d'être indépendante, c'était deux choses. C'était surtout déjà d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses, parce que dans la plupart des rédactions aujourd'hui, on est un peu pressé comme des citrons, et puis ce luxe du temps, c'est un peu difficile de l'obtenir, à moins de bosser pour des grandes émissions TV comme Temps Présent, où ils ont 3 mois pour une émission, mais sinon c'est assez difficile de l'obtenir. Et puis l'autre chose, c'était l'envie vraiment de voyager et de prendre du temps aussi dans les voyages, pas d'amener une information pré-mâchée ou bien déjà préparée en Suisse, mais d'avoir un peu le regard des gens du Sud, de prendre le temps d'entrer dans un sujet, mais au travers de la vision du monde et des gens des pays d'ailleurs. Et ça prend du temps. Voilà, donc c'était l'envie de voyager autrement, de voyager tout court, et puis d'avoir plus de temps pour faire les sujets qui m'intéressent.
C'est du travail, mais c'est en même temps un peu un luxe. Vous pouvez profiter pleinement de votre métier. Je pense que ça... Je ne veux pas dire que ça suscite quelques jalousies, mais il y en a qui seraient heureux d'être à votre place.
Oui, c'est un luxe, c'est aussi un choix de vie. Mm-hmm. Parce que, en tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas gagné 10 millions en faisant ça. Donc, ça veut dire aussi que derrière, quand je me suis mise en indépendante, j'ai pris un tout petit appart qui, avec très peu de frais. Et voilà, c'est aussi un choix de se dire, je vais gagner peut-être un peu moins, mais j'ai cette satisfaction. Parce que c'est vrai que beaucoup de journalistes rêvent de faire ça et ils pensent le faire à la retraite. Voilà.
Donc ça veut dire oser prendre des risques.
Oui, je pense quand même.
Alors ça se passe comment votre travail? Vous choisissez un sujet, vous le réalisez, vous le proposez, ou alors le sujet il est vendu avant d'avoir été enregistré, d'avoir été écrit?
Alors au niveau des reportages que j'ai faits à l'étranger, tout ce qui était radio, je savais à l'avance pour qui j'allais travailler, parce qu'il y a un format, il faut savoir à qui on s'adresse et tout. Mais pour la presse écrite, souvent je partais sans vendre à l'avance, ce qui n'est pas forcément très businesswoman. Quand on vend à l'avance, on peut éventuellement demander des participations aux frais ou des choses comme ça. Mais moi, j'avais plutôt justement envie de prendre le temps de découvrir et de revenir avec les sujets, pas prévendus, mais avec justement cette vision porteuse un peu de la vision du monde des gens du Sud.
Et puis c'est difficile d'en trouver tous ces gens, de rencontrer des gens intéressants. Il faut avoir un sacré réseau quand même, j'imagine.
En fait, toujours par rapport à l'étranger, ça, je passais des fois par les ONG qui ensuite ont vraiment des contacts sur le terrain, parce que je faisais quand même des sujets plus les petites gens que les grands diplomates. Et puis, donc par les ONG, c'était un biais, ou simplement par des étrangers qui sont ici, parce qu'il y en a beaucoup. Et dès le moment où on connaît quelques personnes dans la famille, ensuite, la pelote se déroule. Donc j'avais souvent un ou deux contacts sur place, et parfois il me suffisait d'en activer un seul pour ensuite vraiment pouvoir avancer.
Valérie Kernen, vous avez une manière un peu particulière de définir votre métier dans le monde du journalisme?
Il y a juste une chose où des fois je m'interroge sur nos critères de choix journalistiques. On apprend ça en cours. Moi, j'ai aussi fait l'Uni en journalisme où vraiment on apprend comment traiter et qu'est-ce qui fait que c'est une info. Et finalement, c'est assez restrictif parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui, avec nos critères journalistiques qui se veulent être neutres, passent à côté de nos grilles. Voilà, donc notamment les choses qui marchent bien ou alors les conflits qui durent tellement longtemps et qui ont très peu d'impact sur nous aujourd'hui, qui reste invisible. Et puis, moi, j'essaye, moi aussi, il faut se positionner quand on est indépendant et amener autre chose que ce que la plupart des journalistes amènent. Donc, j'essaye d'aller un peu dans ces zones d'ombre, un peu dans ces zones de no man's land journalistique.
Vous vous sentez parfois investi d'une mission?
Moi, je suis assez... non, ce serait un peu prétentieux. Mais j'essaye vraiment de suivre mes envies. Et puis, j'essaye quand même... Si je dois dire, mission, c'est un peu de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou à ceux qui l'ont moins. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de voyages dans votre parcours professionnel. Le plus marquant?
C'est quand même un des premiers en Amazonie, chez les Indiens Yanomami, où là vraiment j'ai eu la chance d'entrer dans une réserve qui est pas du tout accessible aux touristes. Et là c'était une expérience qui a totalement chamboulé ma vie, parce que des gens, c'était juste après le 11 septembre, et eux n'étaient pas du tout au courant de ça, parce qu'ils sont dans un monde totalement différent. Il y a quelques blancs dans leur univers, mais c'est justement des chercheurs d'or, quelques agents de santé qui les aident parce qu'il y a la malaria,
et... un ou deux ethnologues qui passent par là.
Exactement,
par exemple.
Mais sinon, voilà, ils sont à moitié nus, ils ont leur culture, ils font du chamanisme. Pour eux, la terre est plate. C'est vraiment l'entrée dans le monde de chez nous, d'il y a des milliers d'années où on était encore chasseurs-cueilleurs. Et c'était un énorme privilège. Et en plus, j'arrivais à entrer en contact avec certains d'entre eux qui parlaient un peu portugais. Et je baragouinais le portugais assez quand même pour faire des interviews et puis pour pouvoir vraiment les connaître. Et c'était vraiment absolument fabuleux et fascinant.
Alors, c'était le plus marquant, le prochain ?
Le prochain, il y en a un. J'ai fait une pause un peu ces dernières années, mais je vais partir en Malaisie pour y vivre 8 mois avec ma famille. Et ce sera l'occasion d'y faire des reportages.